aujourd'hui pour nous parler de des lumières et plus exactement de la religion à la lumière de la connaissance et de la critique. Nous accueillons Monique Weiss, qui est chercheuse qualifiée au FNRS et maître d'enseignement à l'ULB. Elle est également directrice adjointe du Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité de l'ULB. Elle est docteure en philosophie et lettres, spécialiste en histoire politique et religieuse de l'Europe occidentale pour les 16, 17e et 18e siècles et pour l'histoire des idées de cette période-là aussi. Et ses cours portent particulièrement dans le domaine de l'histoire du christianisme et de l'histoire de l'incroyance. Et je lui cède tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui.
Oui ? Ok, très bien. Merci Anne pour cette présentation et merci à tous d'être venus ce soir pour cette conférence. Alors si j'ai bien compris, je suis la première personne à vous parler dans le cadre de ce cycle des relations entre les Lumières et la religion, un thème qui sera au centre d'autres conférences par la suite. Alors les attitudes des Lumières à l'égard de la religion ont fait et font toujours couler beaucoup d'encre, mais souvent l'angle d'approche très prédominant dans le traitement de ce sujet est celui des Lumières françaises. Donc, interroger les rapports entre les Lumières et la religion revient souvent à s'intéresser aux penseurs français du XVIIIe siècle, des penseurs qui ont critiqué, voire contesté l'influence à la fois spirituelle et politique de l'Église catholique et de son clergé. Des penseurs comme Voltaire, notamment, qui s'est beaucoup battu par ses écrits, avec grand talent, contre ce qu'il appelait l'infâme. En d'autres termes, le cléricalisme et le pouvoir arbitraire sur lequel celui-ci repose. Un combat anticlérical qui, chez Voltaire, comme chez d'autres auteurs du XVIIIe siècle, était étroitement lié, évidemment, à un autre combat, qui était le combat pour la tolérance, pour la liberté de penser et la liberté d'expression. Et je pense que cet engagement sera aussi évoqué dans le cadre de ce cycle par mon collègue Bruno Bernard lors d'une des prochaines conférences du cycle. On pense aussi à des penseurs plus radicaux, des penseurs français comme Lamétrie ou alors comme le baron d'Holbach, un des premiers théoriciens de l'athéisme matérialiste, dont les ouvrages sont tous autant de condamnations implacables de la religion et de ses effets sur l'être humain et sur les sociétés humaines. Alors là, vous aurez une conférence de Gaëlle Jean-Marc consacrée entièrement à d'Holbach et elle évoquera probablement en détail ce volet essentiel de l'œuvre de d'Holbach. Dans les pays francophones, de manière générale, pays qui portent tout naturellement le regard vers la France, évidemment, on entend peu parler des autres lumières, ce qu'on peut appeler toutes les autres lumières, les lumières anglaises et écossaises, l'Enlightenment, dont vous avez certainement déjà entendu parler. En fait, ce sont les lumières anglaises et écossaises, celles qui ont servi d'inspiration et de modèle aux lumières françaises. Et là, vous aurez une conférence sur David Hume, due à Gilbert Boss. Puis, il y a aussi les Lumières italiennes, appelées Illuminismo, qui, via les traités de Beccaria, qui était un juriste, en fait un théoricien du droit, ont jeté les fondements du droit moderne. Il y a aussi les Lumières allemandes, dont je vais vous parler, ou plutôt les Lumières de langue allemande, l'Aufklärung, parce qu'elles ne sont pas uniquement allemandes, elles sont aussi parfois autrichiennes, ou enfin de langue allemande au sens large du terme. Et puis il y a aussi le mouvement de la Haskalah, c'est-à-dire les Lumières juives, qui se sont déployées à divers endroits en Europe centrale, et dont le représentant le plus illustre est Moses Mendelssohn. Tout de suite vous montrer une image. Moses Mendelssohn, qui est à la fois un représentant des Lumières allemandes, Aufklärung, et de la Haskalah, des Lumières juives. Évidemment, cet intérêt prédominant pour les Lumières françaises au détriment de toutes les autres Lumières s'applique aussi et peut-être surtout à tout ce qui a trait au rapport à la religion et aux Églises. Dans ce domaine, les Lumières françaises ont tendance à éclipser toutes les autres par l'importance des combats menés, évidemment, par l'urgence des causes défendues et aussi par la qualité des écrits produits dans le cadre de ces combats. Mais le rôle décisif d'un Voltaire, d'un Diderot ou d'un baron d'Holbach dans la contestation de l'Église catholique, voire de la religion tout court, ne doit pas faire oublier que beaucoup d'autres penseurs des Lumières ont réfléchi sur ces sujets dans d'autres contrées, notamment dans les milieux érudits qui ont fait éclore et prospérer l'Aufklärung, les Lumières de langue allemande. Ces Lumières de langue allemande ne peuvent pas être réduites à un seul nom, celui de Kant, vous voyez là, comme on le fait très souvent dans les synthèses en langue française. Donc Emmanuel Kant, ou Immanuel Kant, est un personnage central, évidemment, de l'Aufklärung, et la conférence de mon collègue Antonino Mazzu, la dernière, en fait, de ce cycle, va certainement insister sur le rôle déterminant de ce philosophe et de son œuvre immense. Rappelons que c'est Kant qui a donné la définition la plus limpide de ce que sont ou de ce que doivent être les Lumières. Une définition qui est devenue un grand classique, aussi à cause de son caractère intemporel et universel. Voici sa définition. Donc, qu'est-ce que les Lumières ? L'Aufklärung, les Lumières, c'est la sortie de l'homme de sa minorité, dont il est lui-même responsable. Minorité, c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Minorité dont il est lui-même responsable, puisque la cause en réside non pas dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision et de courage. Dans la suite, Kant va parler de paresse et de lâcheté. Donc manque de décision et de courage de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude, qui est en fait c'est une formule reprise à Horace, et qu'on peut traduire par « ose savoir », et le courage de te servir de ton propre entendement, telle est la devise des Lumières. Donc c'est dans réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» 1784. En 1790, Kant explicite cette idée dans la critique de la faculté de juger, dans le paragraphe 40, notamment en rapport avec la croyance religieuse qui, lorsqu'elle fait alliance avec l'irrationalité, devient ce que Kant appelle la superstition. La première maxime, penser par soi-même, est celle d'une raison qui n'est jamais passive. Le penchant à la passivité, et par conséquent à l'hétéronomie de la raison, s'appelle préjugé. Le plus grand de tous consiste à se représenter la nature comme n'étant pas soumise aux règles que l'entendement lui donne pour fondement, grâce à sa propre loi essentielle. Et c'est la superstition. La libération de la superstition s'appelle les Lumières. Donc c'est en fait la même idée, mais développée de manière un peu plus approfondie d'un point de vue philosophique. L'importance de Kant pour la pensée européenne ne doit pas détourner notre attention d'autres penseurs beaucoup moins connus, moins prolixes aussi, et souvent aussi moins novateurs, mais qui ont apporté des contributions intéressantes à la question des rapports entre les Lumières et la religion, ou entre les Lumières et les religions. Car évidemment, la réflexion des Lumières, par exemple de langue allemande, sur la religion, concerne plusieurs églises, confessions ou religions, parce qu'elles se développent dans un contexte multiconfessionnel. On n'est pas uniquement face d'une seule église, comme en France, l'église catholique. C'est un contexte plus multiconfessionnel. Donc, en fait, la réflexion va se faire sur des rapports avec plusieurs religions, ou avec la religion dans un sens plus général. Je vais tenter dans cette conférence de vous présenter certains de ces auteurs en insistant sur leurs idées à travers l'analyse de certains de leurs écrits ou de certains extraits de leurs écrits et en veillant à les replacer dans leur contexte politique, intellectuel et bien entendu religieux. Mon objectif est d'apporter un autre éclairage diversifié et nuancé sur les relations entre les Lumières et la religion, sur les relations entre les autres Lumières et la religion, si vous voulez. Alors, c'est un projet qui est en écho avec l'ouvrage d'un philosophe et historien des idées qui s'appelle Ernst Cassirer, qui a écrit un ouvrage phare, Das Zeitalter der Aufklärung, en 1932, La philosophie des Lumières. Il a écrit cet ouvrage, il a beaucoup travaillé sur les Lumières, sur la philosophie des Lumières, et c'est un peu l'ouvrage de synthèse, en fait, hein, l'ouvrage de sa vie. Donc, il a publié un an avant qu'il ne démissionne de son poste de professeur à Hambourg et émigre en Suède, puis aux États-Unis. Un an avant que les Lumières ne s'éteignent dans son Allemagne natale, j'ai envie de dire. Cet ouvrage ne fut publié que beaucoup plus tard en anglais, en 1951, puis en français en 1966. Et donc longtemps après la mort de Cassirer, qui est mort en fait en 1945. Et cet ouvrage est un retentissement international, est toujours disponible en fait dans le commerce. Et il continue à irriguer la réception des Lumières jusqu'à aujourd'hui, malgré des critiques acerbes de ceux qui, après la guerre et après les carnages de la guerre, ont dénoncé la faillite définitive des idées des Lumières. Et notamment Théodore Adorno, par exemple, qui est un des représentants de l'école de Francfort, qui a écrit après la guerre en fait des critiques assez profondes des Lumières, vues en fait par le prisme de ce qui s'était passé pendant le national-socialisme et la Deuxième Guerre mondiale. Ernst Cassirer cherche à contredire les critiques qui avaient déjà été émises avant par les romantiques en actualisant la portée philosophique des Lumières. Pour lui, les Lumières, donc à l'époque où il écrit, les Lumières sont avant tout un mouvement d'opposition au totalitarisme dans toutes ses formes. Donc sont quelque part un modèle en fait d'opposition au totalitarisme. Il s'agit d'une opposition par les contenus de la pensée, mais aussi et surtout par les formes de la pensée, par la manière de concevoir et d'exprimer la pensée, puis de la mettre en action. Et les pages de Cassirer sur les Lumières à l'égard sur les attitudes des Lumières à l'égard de la religion sont assez représentatives de cette approche et de cette méthode. Donc pour lui, enfin pour Cassirer, la religion, enfin les attitudes des Lumières à l'égard de la religion ne peuvent se résumer à un combat contre la religion en tant que telle ou contre les nombreux travers de celle-ci. Alors je vous citais un extrait, d'abord un premier extrait où Cassirer en fait confirme un peu ce que je viens de dire. Quel est le trait le plus caractéristique du siècle des Lumières? Rien ne semble plus aisé que de répondre, selon l'idée traditionnelle qu'on s'en fait, l'attitude critique et sceptique à l'égard de la religion, voilà ce que tient à l'essence même de la philosophie des Lumières. Mais dès qu'on veut rapporter aux faits historiques concrets cette vue routinière, aussitôt naissent les scrupules et les plus graves réserves, du moins en ce qui concerne la pensée allemande et anglaise. Autant cette idée peut passer pour défendable à propos des philosophes français, autant elle ne représente pour les autres qu'une erreur obstinée. Alors la suite est là. Le XVIIIe siècle ne puise pas ses mobiles intellectuels les plus vigoureux et son dynamisme spirituel caractéristique dans le rejet de la foi, mais dans le nouvel idéal de foi qu'il promeut et la forme nouvelle de religion dans laquelle elle s'incarne. Le sentiment qui partout la domine, donc là c'est l'époque des Lumières, est un sentiment profondément créateur, une confiance absolue dans l'édification et la rénovation du monde. C'est cette rénovation qui est maintenant attendue, exigée de la religion même. Il manque une virgule là. L'hostilité de surface vis-à-vis de la religion, qui nous frappe dans l'époque des Lumières, ne doit pas dissimuler à nos yeux que tous ces problèmes intellectuels sont encore intimement mêlés aux problèmes religieux, qu'ils en reçoivent des impulsions constantes et puissantes. Plus on ressent, en effet, l'insuffisance des réponses apportées jusqu'alors par la religion aux questions fondamentales de la connaissance et de la morale, plus ces questions même s'imposent avec intensité et passion. La lutte qui se poursuit ne tourne plus seulement autour des dogmes et de leur interprétation, mais autour du mode de certitude de la religion, non plus seulement autour du contenu de la foi, mais des modalités de la direction de la foi comme telle. Ce n'est pas à dissoudre la religion qu'on s'attache à toute force, principalement dans le cadre de la philosophie allemande, mais à la fonder et à l'approfondir en un sens transcendantal, donc à refonder en fait la religion, mais de manière plus rationnelle. Cet effort explicite la spécificité de la religiosité du temps des Lumières, ses tendances négatives comme les positives, sa foi comme son incroyance. Alors Cassirer a identifié trois grands thèmes au cœur de la pensée des Lumières, donc trois thèmes en rapport avec la religion ou avec les religions que nous allons retrouver de manière adaptée à des degrés divers dans le cadre de cette conférence à travers les différents auteurs que je vais aborder. Le premier thème, c'est le thème de certains dogmes en fait, qui sont particulièrement remis en question, donc le dogme notamment du péché originel et le problème de la théodicée. Donc, ce sont des questions théologiques et philosophiques aussi qui renvoient le premier dogme en fait, à la notion de la liberté et de la responsabilité humaine, quel est le degré de liberté de l'homme. Et puis le deuxième, enfin, la question de la théodicée, c'est la question de l'origine du mal, enfin, la question du mal, pourquoi le mal et quelles sont les causes du mal. La deuxième grand thème qu'on retrouve, selon Cassirer, la pensée des Lumières en matière religieuse, c'est l'idée de la tolérance et la fondation de la religion naturelle, de ce qu'on appelle la religion naturelle. Donc, ce sont des notions, en tout cas en ce qui concerne la tolérance, c'est une notion à la fois philosophique et politique, hein, parce qu'elle a des répercussions sur la vie en société. Elle pose la question du vivre ensemble, en fait, malgré les différences de religion. Évidemment, la question de la religion naturelle, qui pose la question de l'universalisme aussi, de qu'est-ce qui rapproche finalement tous les hommes, et cette idée de la religion naturelle comme réponse, en fait, qu'il y a une religion qui est en fait le fondement de toutes les religions, et un peu comme le droit naturel, en fait, il y a une religion naturelle. Le troisième thème, en fait, selon Cassirer, dans la pensée des Lumières sur la religion, c'est les rapports étroits entre religion et histoire. Et là aussi, nous allons voir que c'est vraiment un thème qui est vraiment important dans cette pensée. Un thème qui fait écho à l'interrogation plus large sur les rapports entre religion et raison, évidemment. Et qui va aussi poser la question du relativisme des vérités de la religion. Une religion dont les vérités évoluent dans l'histoire, jusqu'à quel point est-ce que cette religion peut encore dire qu'elle possède la vérité ? Jusqu'à quel point l'histoire permet de relativiser la vérité de la religion. Alors avant de revenir plus en profondeur sur ces trois thèmes, ou ces d'autres thèmes inhérents aux Lumières, quelques mots peut-être sur le contexte politique et religieux du Saint-Empire, donc de l'Allemagne, enfin, ou des Allemagnes, au XVIIIe siècle. Donc je dis Saint-Empire, en fait, c'est tous les territoires de langue allemande, donc les Allemagnes, enfin, toutes les principautés allemandes, et aussi les territoires héréditaires des Habsbourg d'Autriche, donc ce qu'on peut appeler l'Autriche, la Hongrie, la Bohème. Alors ces territoires, enfin, ce Saint-Empire, est d'abord caractérisé par un très grand éclatement politique, donc un éclatement politique entre de très nombreuses principautés séculières et ecclésiastiques, des villes libres, où il y a des liens très étroits entre l'autonomie et la prospérité, donc des villes qui sont fort attachées à leur autonomie, parce que, évidemment, cette autonomie est garante de prospérité. Beaucoup d'enclaves territoriales. Il y a, de la part des empereurs, une volonté de centralisation politique importante, mais une volonté qui est toujours contrecarrée par des forces centrifuges importantes, qui émanent des princes, par exemple des princes électeurs, ou des autres princes territoriaux, des villes aussi. C'est un système politique qui est marqué par des tensions permanentes entre le pouvoir central, impérial, incarné par les Habsbourg d'Autriche, et les pouvoirs et les particularismes régionaux et locaux. Donc, éclatement politique. L'autre grande caractéristique, c'est la diversité religieuse, qui est évidemment une conséquence des divisions religieuses du XVIe siècle, et notamment de la réforme luthérienne. Je ne vais pas revenir en détail sur l'histoire de la réforme luthérienne, mais un des résultats, c'est que l'Allemagne était profondément divisée entre territoire catholique et territoire protestant. Et pour éviter les affrontements, enfin, pour mettre un terme aux guerres de religion du XVIe siècle, on a mis en place un régime de coexistence relativement pacifique entre les deux confessions, catholique et luthérienne. Et ce régime de coexistence a été mis en place par la paix d'Augsbourg de 1555, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui est en fait une paix de religion qui met un terme à des conflits assez importants entre les deux factions qui se sont déroulées pendant les décennies précédentes. Et elle voulait en fait mettre un terme définitif à ces guerres, mais en réalité ces guerres vont reprendre au XVIIe siècle, la plus grande guerre finalement de religion, était la guerre de 30 ans, qui a eu des origines confessionnelles aussi. Mais il n'empêche que ces systèmes de coexistence et d'équilibre a fonctionné et est toujours en vigueur de manière adaptée au XVIIIe siècle. Donc, le Saint-Empire est divisé en territoire catholique, territoire protestant, avec un équilibre des forces, un équilibre biconfessionnel des forces, mais qui reste toujours très fragile. Alors, cet équilibre est basé sur le principe que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle le cuius regio, eius religio. Donc, c'est le prince territorial qui décide de la confession de ses territoires et donc de ses sujets. Donc, il n'y a pas question de liberté de religion pour les sujets. C'est le prince qui décide, mon territoire est catholique, mon territoire est luthérien. Alors, ce qui fait que au XVIIIe siècle, enfin comme avant, comme au XVIe, comme au XVIIe siècle, la plupart des entités qui forment le Saint-Empire sont monoconfessionnelles. Donc il y a une confession, c'est celle du prince, celle que le prince impose à son territoire, à ses sujets. Il y a quelques lieux officiellement biconfessionnels qui ont mis en place des systèmes assez complexes de gestion de la diversité religieuse. Il y a certaines villes, notamment comme Augsbourg, où il y a vraiment une coexistence de catholiques et de luthériens à l'intérieur de la ville-État hein, d'Augsbourg. En fait, il y a aussi quelques aménagements qui ont été prévus dès le XVIe siècle pour les sujets qui n'étaient pas d'accord avec le choix du prince. Donc il y a ce qu'on appelle le jus immigrandi, le droit d'émigrer, qui est vraiment considéré comme un droit, hein. Le droit de partir du territoire, d'aller s'installer dans un autre territoire si on n'est pas prêt à adopter la confession choisie par le prince. Et donc, effectivement, il y a des gens qui sont partis, il y a encore des gens qui partent aussi, mais il y a aussi dans chacun des territoires la présence de crypto-croyants. Enfin, donc, par exemple, dans les territoires catholiques, il y a des minorités crypto-protestantes donc, qui sont restées, qui ont officiellement adopté le catholicisme, mais qui, plus ou moins en secret, plus ou moins en clandestinité, sont restées protestants. Et la même chose vaut à un degré probablement moindre pour les catholiques dans les territoires protestants. Donc là, on voit bien que la situation religieuse est très complexe et que cet équilibre des forces est très fragile. Mais en réalité, la situation est encore plus complexe parce que les Allemagnes du XVIIIe siècle ne sont plus uniquement biconfessionnelles, donc catholiques, luthériens, elles sont multiconfessionnelles. Parce qu'à côté des catholiques et des luthériens, il y a des calvinistes, ou on les appelle aussi des réformés. Et depuis le milieu du XVIIe siècle, ces réformés bénéficient d'un statut comparable aux catholiques et aux luthériens. Donc il y a une reconnaissance aussi plus ou moins officielle de cette deuxième forme de protestantisme qui est le calvinisme. Alors il y a à côté de ces trois confessions, il y a les adhérents des différents courants de ce qu'on appelle la réforme radicale. Donc c'était des mouvements beaucoup plus radicaux qui voulaient aller beaucoup plus loin que Luther ou Calvin dans la réforme au XVIe siècle et qui continuent en fait à exister mais de manière beaucoup plus minoritaire dans le Saint-Empire, par exemple les anabaptistes, les spiritualistes. Et ce sont des mouvements qui n'ont aucune reconnaissance officielle et qui sont difficilement tolérés tant dans les territoires catholiques que dans les territoires luthériens et réformés, évidemment, parce que ce sont des communautés qui dérangent un peu tout le monde. Enfin, le Saint-Empire compte, au XVIIIe siècle, d'importantes communautés juives dont le statut juridique est fort changeant et dont le degré d'intégration est très variable. En effet, les juifs bénéficient de régimes de tolérance limités et conditionnels dans beaucoup de territoires, mais ces régimes sont toujours susceptibles de changer au gré des circonstances politiques et socio-économiques. Donc ce n'est pas une tolérance absolue, hein, c'est des régimes de tolérance toujours conditionnels. La vraie tolérance civile, fondée sur l'idée d'égalité, de relative égalité devant la loi, leur sera accordée à la fin du XVIIIe siècle. Et ce qui peut paraître très étonnant, c'est que ça va se passer dans les territoires très catholiques des Habsbourg d'Autriche pendant le règne de l'empereur Joseph II, donc qui est un despote éclairé, qui n'est évidemment pas n'importe quel prince. Vraiment, il faut mettre l'accent sur cet édit de tolérance de 1781 que Joseph II va donner à ces territoires et qui est le premier édit de tolérance qui va s'adresser non seulement aux protestants de ces territoires, hein, de ces territoires catholiques, donc, hein, mais aussi un fait tout à fait nouveau aux juifs de ces territoires. Et donc cet édit, en fait, de 1781 est bien plus large que celui plus tardif de Louis XVI et garantit la liberté de culte et le libre accès de tous les citoyens, quelle que soit leur confession, à la vie publique, notamment à certains emplois publics, à l'université, au corps de métier. Cet édit s'est heurté à de vives résistances de la part de la hiérarchie catholique. Donc c'est un mouvement d'émancipation très important qui précède et annonce celui de la Révolution française, donc quelques années plus tard, à partir de 1789. Mais cet édit de tolérance de Joseph II de 1781 n'est d'application que dans les possessions des Habsbourg, dans les territoires des Habsbourg, donc en Autriche, en Hongrie, et dans nos régions, dans les Pays-Bas autrichiens. Pas dans les autres territoires du Saint-Empire, qu'ils soient protestants ou catholiques d'ailleurs. Alors, quelques considérations sur l'évolution des églises et de leur lien avec la société dans le Saint-Empire entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Alors, le phénomène finalement le plus marquant dont les historiens ont beaucoup parlé ces dernières décennies, c'est le phénomène de la confessionnalisation qui a marqué les différents territoires catholiques, luthériens et plus tard aussi les territoires officiellement réformés, calvinistes en fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette notion qui a l'air un peu compliquée? Cette notion renvoie à un processus complexe avec des répercussions politiques, sociales, culturelles importantes. Ce n'est pas uniquement un phénomène religieux, c'est vraiment quelque chose qui touche toute la société. Et donc l'idée, c'est que c'est la raison confessionnelle qui prédomine, qui impose ses règles et ses impératifs à tous les domaines de la société et qui éclipse toutes les autres priorités. En fait, c'est le facteur religieux, le facteur confessionnel qui devient le plus important pour la cohésion des territoires. Donc cette idée du tout confessionnel a été beaucoup critiquée on a beaucoup écrit là-dessus, mais on a aussi beaucoup critiqué ce concept. Mais il est indéniable que le Saint-Empire a effectivement vu se constituer, à partir du XVIe siècle, des blocs confessionnels assez homogènes et des blocs aussi antagonistes, donc qui étaient fort repliés sur eux-mêmes et jaloux de leurs prérogatives. Des blocs confessionnels, enfin des États... où la confession en fait est un élément important de l'identité politique et culturelle. Et en fait, cette idée de confessionnalisation exprime aussi l'idée d'une très forte imbrication entre la religion et la politique, entre religion et politique, entre religion et culture aussi, religion et éducation. Donc en fait, c'est vraiment l'idée que tout est marqué par le facteur confessionnel. Et l'idée aussi d'une quête d'identité religieuse forte, différente de celle des confessions rivales. Donc, quelque chose d'assez fermé, en fait, fermé sur le confessionnel. À partir de la fin du XVIe siècle, on constate, dans ce contexte, un important mouvement de revitalisation de l'Église romaine, enfin, du catholicisme romain, notamment par l'action de nouveaux ordres religieux, comme les jésuites, hein. Donc il y a une consolidation de la hiérarchie, les dogmes ont été redéfinis par le Concile de Trente et donc ils sont appliqués dans les différents territoires catholiques. Les pratiques cultuelles sont plus clairement codifiées qu'avant, il y a une uniformisation en fait de la pratique religieuse. Et par contre-coup, malgré le développement de l'enseignement, par exemple des collèges des jésuites, et aussi le développement des universités catholiques, la place accordée à l'examen critique, à l'examen aussi individuel des vérités de la croyance, n'est pas très développée, enfin même assez inexistante. Et en fait, c'est vraiment... aussi une différence essentielle avec les territoires protestants où en fait il y avait cette tradition instaurée par la réforme de libre examen, de libre lecture de l'écriture. Et c'est quelque chose qui ne s'est pas du tout imposé évidemment dans la culture catholique, dans les territoires catholiques. Donc dans les territoires protestants, je vous ai dit, il y a au contraire cette culture plus importante de libre examen, mais en même temps, vers le milieu du XVIIe siècle, le contexte intellectuel et spirituel a été fort semblable à celui des territoires catholiques. Parce que l'affirmation du libre examen n'a jamais été remise en cause, par exemple, par les théologiens du luthéranisme ou du calvinisme. Mais dans la pratique, et suite justement à ce processus de confessionnalisation, de repli sur soi et sur le tout confessionnel, l'orthodoxie a pris beaucoup d'importance. Et l'orthodoxie a imposé un carcan assez lourd sur le savoir, sur la connaissance, sur l'éducation. Et donc, cette orthodoxie est ressentie comme dogmatique, comme fort lourde par beaucoup. Elle est aussi portée par des institutions importantes, comme les consistoires, par exemple. Et en fait, il va y avoir une réaction contre cette orthodoxie à partir du milieu du XVIIe siècle. Et donc, à partir du milieu du XVIIe siècle, le protestantisme connaît un important mouvement de contestation des églises établies, et surtout un renouveau spirituel important. Et ce mouvement de renouveau spirituel s'appelle, est aussi connu sous le nom de piétisme. En fait, il est porté par un besoin de plus grande authenticité, par une piété plus personnelle, plus intérieure, une piété plus affective aussi. Donc, on va mettre l'accent sur la religion du cœur. C'est aussi un mouvement qui est en quête d'un nouvel esprit communautaire, passant par une association plus libre entre les croyants, en fait. Donc, quelque chose de moins structuré, de moins institutionnel que les églises officielles. Et on peut considérer ce piétisme un peu comme un berceau des Lumières, un allié des Lumières au départ. Mais par après, le piétisme va finir par se raidir, va devenir orthodoxe, attaché à l'orthodoxie lui-même. Et ses représentants, les théologiens piétistes, les penseurs piétistes, les écrivains piétistes, vont devenir des adversaires redoutables des penseurs de l'Aufklärung, et surtout de ceux qui vont oser exprimer ce qu'ils considèrent comme des idées subversives sur la religion. Alors, grâce à la coexistence relativement pacifique dont je vous ai parlé, qui est garantie par cet équilibre des forces confessionnelles, il y a donc ce qu'on appelait la paix de religion. Grâce à la paix de religion, il y a des échanges nombreux entre les catholiques et les protestants, des échanges économiques bien sûr, mais aussi des échanges culturels, universitaires, artistiques. Mais d'un point de vue sociologique, le fossé demeure. Donc il y a quand même très peu d'interpénétration entre les deux confessions, entre les sociétés appartenant à ces deux confessions, ou à ces trois confessions, si on compte les réformés. Par exemple, les mariages interconfessionnels sont très très rares, sont presque inexistants. Et surtout, toutes les institutions par lesquelles va passer l'innovation qui est en fait à l'origine de l'émergence des Lumières, se trouvent dans l'espace protestant. Et ça, c'est vraiment un phénomène vraiment important, que ce sont des Lumières très protestantes, les Lumières allemandes. En fait, c'est en partie, je vais vous expliquer un peu plus en détail, mais c'est en partie une vérité, c'est vraiment une réalité. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup mis en évidence dans l'historiographie, dans la manière de présenter, de parler des Lumières allemandes dans l'histoire. Donc cette idée qu'il y a eu un retard, ou même l'inexistence des Lumières dans les pays catholiques, dans les territoires catholiques du Saint-Empire, certainement en matière philosophique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'historiographie sur les Lumières. Mais bon, évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette historiographie était souvent le fait de protestants. Donc elle était inspirée notamment par la grande historiographie prussienne, qui était très, très, très fière de l'héritage protestant, et donc c'est évidemment pas toujours très objectif non plus comme historiographie. Mais comme je l'ai dit, cette idée est en partie justifiée, donc l'idée que l'Aufklärung catholique a surtout produit des grandes œuvres culturelles, notamment architecturales, picturales, musicales, des chefs-d'œuvre de l'art, mais qu'elle n'a pas produit des penseurs phares qu'on puisse comparer aux penseurs de l'Aufklärung protestante. Notamment des penseurs comme ceux dont je vais vous parler, ou comme Kant. Ou même qu'on ne peut pas non plus comparer ça avec la Haskalah, les Lumières juives, qui ont produit des penseurs comme Mendelssohn. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on a aussi toujours mis en évidence, c'est le lien étroit entre les Lumières protestantes et les Lumières juives, alors qu'il n'y avait pas vraiment de lien avec les Lumières catholiques. Donc c'est un lien qui a notamment été beaucoup symbolisé, je m'excuse pour la mauvaise qualité de l'image, par l'amitié entre Lessing, qui est debout en fait, qui est un écrivain et un penseur donc des Lumières, et Moses Mendelssohn à gauche, et donc qui passait notamment par l'étude approfondie comparer des religions. Et aussi, Mendelssohn, en fait, qui s'est adonné à une critique des textes sacrés du judaïsme, et notamment du Talmud, et en fait, les penseurs protestants ont utilisé ces travaux pour leur critique, leur approche critique des textes religieux. Mendelssohn est aussi un auteur qui a beaucoup réfléchi sur la tolérance religieuse et civile, et qui a en fait qui est l'auteur d'appel à l'émancipation des juifs. Et c'était en fait il se considérait lui-même comme un philosophe populaire, donc il écrivait aussi beaucoup dans les revues pour un peu vulgariser, si vous voulez, les idées des Lumières pour le public plus large. C'est quelque chose qu'il partage avec beaucoup de penseurs d'ailleurs de son époque, cette idée de vouloir porter les idées vers un public plus large. Donc, la Aufklärung protestante, qui est prédominante, évidemment, quels sont les principaux lieux de développement de ce mouvement, en fait, c'est dans les universités luthériennes et réformées, qui sont en plein essor au XVIIIe siècle, que vont apparaître des chaires et des enseignements nouveaux qui vont porter ce mouvement de la Aufklärung. Et notamment des chaires en sciences naturelles, évidemment, dans la suite de la révolution scientifique qui a commencé en Angleterre au XVIIe siècle, mais aussi des enseignements nouveaux en philosophie et en histoire. Alors, ces universités sont relayées par d'autres institutions, notamment les académies des sciences, et elles vont bouleverser le champ intellectuel. Et un autre élément important, un autre facteur important, c'est l'importance le rôle de la presse, notamment de la presse des revues, en fait, des revues, par exemple, philosophiques, pour les échanges et les débats d'idées. Par exemple, des villes comme Hambourg développent une presse de revues et d'hebdomadaires dès le début du XVIIIe siècle, une presse assez importante. Il faut aussi se rappeler que le Saint-Empire n'a pas vraiment de capitale, et donc l'échange d'idées va surtout se passer par la presse interposée, par ces revues interposées qui permettent en fait aux esprits éclairés de rester en contact les uns avec les autres, en plus des correspondances en fait. Donc le rôle de la presse qui est vraiment très important dans l'établissement d'un dialogue fructueux entre les différents centres des Lumières allemandes. Et là aussi, effectivement, c'est une des conséquences de la division politique, c'est qu'il n'y a pas un centre, il y a plusieurs centres. Il y a vraiment un polycentrisme du Saint-Empire qui est aussi un polycentrisme du développement intellectuel, en fait. Donc vous avez des grands centres des Lumières et puis des plus petits centres qui sont aussi importants par leur rayonnement. Donc des villes comme Hambourg, par exemple, comme Göttingen, qui a une université importante, Heidelberg aussi, une université réformée, Francfort. Des villes comme Wolfenbüttel aussi, vous allez voir après, c'est un endroit où les ducs de Brunswick vont créer une bibliothèque assez impressionnante, qui va être un lieu de savoir et de diffusion de la connaissance. Il y a Dresde, il y a Berlin, il y a Halle, où il y a une université importante aussi, luthérienne, etc. Et alors, comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'historiens, surtout des historiens protestants, voient dans les Lumières de langue allemande, dans l'Aufklärung, une espèce de seconde réforme. On a vraiment parlé de seconde réforme qui serait venue parfaire la première réforme, donc celle de Luther, celle du XVIe siècle. Et donc cette idée a été beaucoup reprise, je vous l'ai dit, dans l'historiographie protestante, notamment dans l'historiographie prussienne, en fait, aussi pour se démarquer des Lumières catholiques, qui ont été beaucoup moins loin, notamment dans le domaine philosophique et dans le domaine des idées. Alors, comment est-ce qu'on peut définir les principaux facteurs ayant encouragé cette seconde réforme ? Donc, je vous ai parlé déjà de la manière, des moyens de diffusion et des moyens de rayonnement, mais en fait, au cœur de cette seconde réforme, de ces lumières protestantes de langue allemande, il y a un renouveau épistémologique dans les études sur l'histoire et la philosophie, et aussi, mais dans une moindre mesure, de la philologie, donc l'étude des textes, en fait. En fait, un renouveau qui s'inscrit dans un, dans un moment de crise de la théologie, qui a été traditionnellement considérée comme la reine des sciences, et qu'il était certainement au XVIe siècle, qu'il était encore au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la théologie est en crise, et en fait, ce sont l'histoire et la philosophie qui vont prendre, non pas prendre sa place, mais en tout cas qui vont profiter de cette crise pour connaître un renouveau important. Donc la discipline historique va s'émanciper de l'ancien cadre, qui était en fait le cadre des annales, des dates des faits et des dates, va se tourner vers l'étude des sources et aussi vers l'histoire des mœurs et l'histoire des cultures. Donc quelque chose de beaucoup plus large. Et la philosophie va connaître un changement de encore beaucoup plus radical, parce qu'elle ne sera plus considérée comme une étape préparatoire à la théologie. Elle sera plus considérée comme quelque chose d'autonome, en fait. Donc, il y a une rupture par rapport à toute une tradition, qui est la tradition scolastique, qui remonte au Moyen-Âge, en fait, qui est désormais considérée comme incompatible avec la pensée rationnelle. Je vous ai aussi parlé de la philologie, donc l'étude des textes d'un point de vue linguistique, en fait, philologique. Et en fait, elle va vouloir s'émanciper de la théologie, mais ce sera beaucoup plus difficile, en fait. Alors, bon, évidemment, j'en ai déjà parlé, l'apport essentiel des sciences naturelles, qui ont connu, qui connaissent vraiment un renouveau très important depuis la fin du XVIIe siècle, dont la lignée de ce qu'on appelle la révolution scientifique. Alors, les notions clés, finalement, de cette évolution, sont celles de doute, d'esprit critique, de rejet de toutes les formes de mystère qu'on mettait en évidence auparavant, et de lutte contre les superstitions. Donc ça, c'est un terme qu'on retrouve, c'est un terme typique du XVIIIe siècle. Et au cœur de ces notions, il y a le rapport repensé entre raison et révélation, donc par rapport aux attitudes face à la religion. Hein, donc il y a quelle est la part de la raison, quelle est la part de la révélation, donc des vérités qui auraient été révélées à l'humanité, et quelle est la part de la vérité ou des vérités que l'homme peut trouver par sa raison. Donc entre finalement ce qui est extérieur à l'homme et ce qui provient de l'homme lui-même. Donc ça, là on établit de nouveaux rapports, on redéfinit les rapports, évidemment au profit de la raison et au détriment de la révélation. La révélation va surtout être considérée comme quelque chose de transitoire, en fait, qui est appelé à finalement à disparaître une fois que la raison aura pris définitivement le dessus. Et tout cela se place aussi dans l'idée, finalement, qui est aussi au cœur des Lumières, c'est que l'esprit humain se développe, l'esprit humain progresse, donc c'est une vision très, très optimiste, en fait, très, très progressiste, si vous voulez, de l'esprit humain. Et l'esprit humain est appelé à connaître un perfectionnement continu et indéfini, sans limite, sans fin. Ça, c'est une idée vraiment fondamentale des Lumières. Alors, le premier penseur des Lumières allemands dont j'ai envie de vous parler, ou plutôt un penseur des pré-Lumières, c'est Gottfried Wilhelm Leibniz, donc, vous connaissez certainement, qui est un penseur qui a beaucoup promu, en tout cas certaines de ces transformations dont je viens de parler, et notamment l'émancipation de toutes les autres sciences, surtout des sciences naturelles, par rapport à la théologie. En fait, Leibniz a développé un programme qui reflète son idée d'un monde, en perpétuelle évolution, où la physique et les mathématiques occupent une place de tout premier ordre. Donc Leibniz se dit qu'il a promu l'émancipation des sciences par rapport à la théologie, mais il reste profondément attaché au christianisme, en fait. Hein. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui remet en cause le christianisme. Mais pousser en fait le développement des sciences, hein, et pour lui, enfin, il va essayer d'intégrer le respect de la religion et le développement des sciences par des entourloupes intellectuelles qui sont assez typiques de tous ces penseurs des Lumières, en tout cas des pré-Lumières. Alors, il va aussi promouvoir la tolérance religieuse et mener une campagne en faveur du rapprochement entre les différentes églises chrétiennes. Alors, pour lui, évidemment, il met l'accent sur, non pas sur des questions théologiques, de divergences théologiques, mais sur la dimension pratique. Donc, quelles sont les solutions qu'on peut adopter pour trouver un mode d'organisation apaisé de la vie collective malgré les différences religieuses. Ce qui compte, c'est la pratique, ce n'est pas les grandes discussions théologiques sur lesquelles on se dispute depuis le XVIe siècle. C'est comment vivre ensemble. Et donc, on a parlé d'un certain écuménisme, en fait, de Leibniz. Et donc, pour lui, cet écuménisme suppose une rupture avec les structures ecclésiastiques, avec ces institutions qui prétendent être des garants de l'orthodoxie, de l'uniformité aussi. En fait, la tolérance, pour lui, n'est possible que si on s'affranchit de ces institutions. Donc, on peut dire qu'il est profondément chrétien, attaché au christianisme, mais il remet en question l'importance des institutions, des églises, en fait, qui sont détentrices de la vérité, qui se disent détentrices de la vérité. Donc, pour lui, la croyance en Dieu, en fait, l'adhésion aux deux révélations, donc la révélation de l'Ancien Testament et la révélation du Nouveau Testament, représente un lien commun suffisant pour qu'il puisse y avoir une entente entre toutes les confessions chrétiennes. Donc, en fait, à travers Leibniz, on voit que les lumières de langue allemande diffèrent très fort, par exemple, des lumières françaises, aussi à cause du contexte dont je viens vous parler, le contexte politique, religieux, intellectuel, dans lequel elles naissent et qui va les façonner, en fait, tout au long de leur évolution. Donc, ces lumières ne sont pas dirigées, comme je l'ai dit, contre la religion en tant que telle, mais elles visent en priorité la sortie de ce carcan très, très fort, très lourd du confessionnel, en fait, hein, du repli sur soi, sur sa confession. Elles veulent sortir de ce carcan et donc elles veulent dépasser les divisions religieuses sans nécessairement remettre en question en profondeur la religion. C'est vraiment une différence très importante, mais qui a en fait ses racines dans le contexte religieux qui remonte au XVIe siècle, en fait, la division religieuse. Alors, je l'ai dit, Leibniz reste attaché à la religion, au christianisme. On l'a décrit comme un avocat de Dieu. Et effectivement, toutes ces grandes intuitions philosophiques, enfin, toutes ces pensées philosophiques vont dans le sens de la sauvegarde de la religion, mais d'une religion comme ça, peut-être pas encore parler de religion naturelle qui réunirait tous les hommes, mais d'une religion assez abstraite, qui n'est pas liée à une église en particulier. Donc, par exemple, il y a l'idée d'infini qui est très importante chez lui, et l'infini qu'il voit aussi à l'œuvre dans les sciences naturelles, dans les mathématiques. Il y a l'idée d'une harmonie préétablie, qui est aussi une notion très, très importante, qu'on retrouve beaucoup chez les auteurs du début du XVIIIe siècle, notamment. L'idée que Dieu a conçu le monde selon un plan, et donc, en fait, le monde qu'il a créé est le meilleur des mondes possibles. C'est une formule qui est assez connue, notamment parce que, en fait, elle a été critiquée. Voltaire, notamment, s'est beaucoup moqué de cette formule, le meilleur des mondes possibles, dans Candide, en fait, qui est Candide, qui était un disciple que Voltaire a imaginé comme étant un disciple de Leibniz. Leibniz croit aussi en la supériorité du bien sur le mal. Toujours évidemment en lien avec cette idée du meilleur des mondes possibles. Et toutes ces croyances, évidemment, ont été ébranlées par la nouvelle du tremblement de terre de Lisbonne de 1755, qui a beaucoup perturbé par après les disciples de Leibniz, en fait, parce que justement, être confronté au mal, en fait, quand on est dans ce genre de pensée, ça ébranle complètement, en fait, les idées mises en place. L'idée aussi que... une autre idée qui remonte à Leibniz, qui est celle de Dieu comme grand horloger, qui est aussi une image qui va être reprise par beaucoup de penseurs du siècle des Lumières. Donc, l'idée que l'univers, en fait, est comme une grande mécanique et Dieu est comme le grand horloger à l'origine de cette mécanique. Donc, Leibniz, quelque part, est pris dans une contradiction profonde parce qu'il constate finalement le statut précaire de la pensée religieuse aux prises depuis le milieu du XVIIe siècle avec la révolution scientifique, avec les connaissances, les interrogations apportées par les sciences naturelles. Et il est convaincu que les sciences naturelles doivent poursuivre leur développement et qu'elles doivent appliquer les règles qui leur sont propres et qui sont les règles de la raison humaine, et qu'elles doivent rejeter les entraves qui empêchent et qui freinent ce développement. Et parmi ces éléments qui freinent le développement des sciences naturelles, il y a notamment toutes les considérations irrationnelles de nature religieuse. Donc, d'un côté, Leibniz affirme cette importance du développement des sciences naturelles malgré tout, hein, au détriment de certaines superstitions, si vous voulez, pour utiliser les termes de l'époque. Mais en même temps, il cherche toujours à écarter tout soupçon d'irréligion des sciences naturelles et de ceux qui s'y adonnent. Donc évidemment, c'est une des contradictions profondes de sa pensée. Et il va dépasser cette contradiction, va essayer de la transcender par une entourloupe intellectuelle qui, comme je vous l'ai dit, est assez typique du siècle des Lumières, et plus particulièrement du déisme ou de certaines formes de déisme. Donc c'est un courant qui est assez répandu en Angleterre, en Écosse, mais aussi en France et dans le Saint-Empire à partir du XVIIIe siècle, déjà à partir de l'époque de Leibniz. Et donc pour Leibniz, comme pour d'autres penseurs, en fait, Dieu va devenir une catégorie des sciences naturelles. Il va essayer d'intégrer Dieu dans les sciences naturelles. Il va en faire le fondement de l'ordre du monde décrit et compris par les mathématiques et par les sciences naturelles. Donc, il y a cette tentative pour voler au secours de la religion par ce raisonnement assez étonnant. Et ce raisonnement est conduit au nom de la raison. Et par la raison, c'est qu'il finalement ne fait qu'accroître le paradoxe. Voilà. C'est un paradoxe qu'on va retrouver au cœur dans d'autres pensées, d'autres représentants des Lumières, et notamment des Lumières allemandes. Alors, une autre figure de ces Lumières, c'est beaucoup moins connue en fait, mais assez, aussi très importante, c'est Christian Thomasius, qui lui, il a fait sa carrière à l'université de Halle, en Prusse. Et en fait, lui, il incarne le parti de la raison dans la lutte contre les théologiens. C'est celui qui va le plus rapprocher la réflexion philosophique de les questions pratiques de son temps. Donc, par exemple, pour lui aussi, la philosophie sert à lutter contre les préjugés, notamment les préjugés, les a priori qu'on a sur les autres, ou sur d'autres individus ou d'autres groupes. Et il va notamment écrire des textes sur les préjugés à l'égard des juifs. Il va aussi combattre la superstition, hein, comme beaucoup de penseurs de son époque, mais en même temps, il dénonce les abus de la lutte contre la superstition, parce que cette lutte contre la superstition est aussi brandie, par exemple, dans les affaires de sorcellerie, qui à l'époque, donc jusqu'au XVIIIe siècle, secouent encore la société, hein, donc, qui conduisent encore, moins souvent qu'auparavant, mais quand même, parfois au bûcher, en fait. Donc il dénonce à la fois les superstitions, mais aussi les abus, en fait, dans la lutte contre la superstition. Et chez lui, la notion de tolérance revêt des aspects plus sociaux et plus politiques. Donc, c'est moins la tolérance religieuse ou tolérance philosophique, c'est plus la tolérance dans son application pratique, donc sociale et politique. Et pour lui, la question de la tolérance est en relation étroite avec le droit, l'idée du droit tel qu'il a été redéfini par les Lumières. Et c'est là qu'on trouve la notion de droit naturel, donc, hein, qui a été développée suite aux théories de Hugo Grotius, donc l'idée d'un droit humain inscrit dans la nature humaine et valable universellement, donc qui n'est pas un droit positif donné par un État en particulier, mais l'existence d'un droit de nature, d'un droit naturel commun à tous les hommes. Donc lui, c'est plutôt un philosophe aussi centré sur les questions pratiques, Et l'autre penseur dont je vais vous parler, Christian Wolff, lui, c'est plutôt, c'est vraiment le penseur philosophique, enfin, qui a plus mis en place tout un système philosophique. Finalement, probablement le système philosophique le plus important avant Kant, hein, pour les Lumières allemandes, et un système philosophique qui aura beaucoup d'influence sur la génération d'après, sur la génération de la fin du XVIIIe siècle. Donc un autre penseur de cette Aufklärung protestant en empire, très peu connu, presque oublié aujourd'hui, même si on remarque qu'il y a plus de publications sur lui, notamment un colloque à Paris sur Wolff et Kant, enfin leurs liens, leurs différences, leur influence. C'est quelqu'un qui, par contre, était fort connu au XVIIIe siècle, qui est par exemple souvent cité dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc il a eu une influence, y compris sur les Lumières françaises. Lui aussi a été professeur à l'université de Halle en Prusse. Et là, il a dû se battre contre des collègues piétistes, hein, donc justement qui, dans ce repli du piétisme sur l'orthodoxie, l'ont fait chasser de son poste. Et donc il a été chassé de son poste parce qu'il a écrit un discours sur la philosophie des Chinois, dans lequel il a mis Jésus et Confucius sur un pied d'égalité. Donc ça lui a valu la démission. Mais il a récupéré son poste grâce à l'intervention personnelle de Frédéric II de Prusse. Et donc Wolff, comme je l'ai dit, a édifié tout un système complet de philosophie des Lumières, pré-kantienne. Et tout ce système est placé sous le patronage de la raison. Donc d'ailleurs, ses œuvres portent un titre d'ensemble qui est « Pensée raisonnable ». Ses œuvres sont aussi toutes écrites en allemand, ce qui achève évidemment d'abord l'idée qu'il faut aller vers le peuple, mais en tout cas vers un public plus large, et aussi qu'il faut s'émanciper du latin, qui est la langue par excellence de la scolastique, et donc des vieilles idées, en fait. Alors, cette pensée de Wolff, elle est structurée en quatre secteurs principaux. Donc, c'est toute une architecture qui est basée sur la cohésion, en fait. Hein. On voit qu'il y a quatre secteurs, mais les quatre secteurs sont liés entre eux. Il n'y a plus une sous-division, une séparation entre les différents secteurs de la pensée. Donc, premièrement, la métaphysique, donc tout ce qui concerne Dieu, l'idée de l'âme, la morale, la vie sociale et les rapports de l'homme avec la nature. Alors, la première partie, évidemment, la métaphysique relève encore et toujours du dogmatisme métaphysique, donc comme chez Leibniz, en fait. Il n'y a pas de rupture du tout avec l'idée de l'existence d'un être suprême, donc un être suprême qui aurait créé le meilleur des mondes possibles, hein, c'est comme chez Leibniz. Mais en fait, Wolff va mettre l'accent sur l'idée que la réflexion humaine doit surtout être orientée vers la conscience morale, donc vers l'éthique, comment se comporter, comment agir, et vers l'activité sociale. Donc, à nouveau, l'application pratique de la philosophie. Finalement, il y a d'un côté, il y a la métaphysique, il y a les grandes idées, et là, très peu de choses changent, en fait. On garde les mêmes idées, hein, cet attachement à la théologie, finalement, assez traditionnel. Mais ce qui est important, c'est les questions de morale, d'éthique, et les questions de vie sociale, en fait, hein, de politique, si vous voulez, au sens large du terme. Alors là aussi, il y a beaucoup de paradoxes dans sa pensée, et comme souvent, ce sont les paradoxes qui sont intéressants, parce qu'ils permettent justement de voir toute la complexité, et de voir aussi la complexité du contexte dans lequel se développe cette pensée. Alors, il y a une ambivalence fondamentale qui est que Wolff part de... dit en fait qu'on peut définir une éthique par les seuls moyens de la raison, sans référence à la religion chrétienne. En fait, ce qui peut paraître étonnant, parce que d'un côté, il pose, d'un point de vue métaphysique, l'existence de l'être suprême, et l'attachement, il y a quand même un attachement assez important à la théologie chrétienne, mais en même temps, il dit que l'éthique peut se développer sans référence à cette métaphysique. Et donc, pour lui, cette éthique repose sur le droit naturel, donc dont je vous ai parlé, cette idée qu'il y a un droit qui est commun à tous les hommes, et sur ce qu'il va appeler la religion naturelle. donc une religion naturelle qui est en fait commune à tous les hommes et qui est basée sur la perfectibilité des facultés humaines. Donc l'idée que en fait la raison humaine connaît un développement, un perfectionnement continu et à la fois le droit naturel relève de cette notion-là et la religion naturelle. Alors la conception que Wolf a de l'État est aussi tributaire de ces notions, parce qu'il considère qu'un bon État, c'est un État qui permet à l'être humain l'accomplissement de ce devoir de perfection, de connaissance du droit naturel et de la religion naturelle. Et donc, quelque part, c'est une vision de l'État intéressante, hein, un État qui permet à l'homme, à l'être humain de se développer. Mais en même temps, pour Wolf, l'État, en fait, doit aussi être garant de la moralité et de la piété. Et donc, l'État doit aussi être au service d'une foi dans un être suprême, hein, parce que pour Wolf, la religion naturelle est basée sur l'existence de cet être suprême, et donc l'État doit garantir le culte de cet être suprême et doit garantir aussi l'uniformité de la pratique et de la piété. Et ce qui évidemment va le conduire à légitimer des politiques très absolutistes, hein, notamment en Prusse, hein, où en fait on va se mettre en place un État presque policier, en fait, qui va aussi contrôler la piété des sujets. Et Wolf, il va légitimer ces politiques, en fait, hein, qui semblent contraires à ce qu'il dit par rapport à l'épanouissement, à l'évolution de l'individu, hein, de la raison humaine, mais en fait qui est une des contradictions, une suite d'une de ces contradictions qui existe au sein de sa pensée. Alors, un des ouvrages dans lequel il développe cette idée de cette éthique s'appelle « Les pensées raisonnables de la conduite de l'homme pour favoriser le bonheur ». Donc, c'est un ouvrage qui date de 1720, et dans cet ouvrage, il montre d'abord que toutes les actions humaines sont inscrites dans les lois de la... doivent être compatibles avec les lois de la nature, et que le perfectionnement individuel et collectif, donc celui de l'individu, mais aussi de la société, de toute l'humanité, est un devoir imposé par la nature. Et donc, après, il va développer les devoirs de l'homme envers lui-même, dans cette optique, les devoirs de l'homme envers Dieu, et le devoir de l'homme envers les autres hommes. Mais dans cette première partie, où il développe justement l'idée que la loi du perfectionnement est vraiment la loi fondamentale de la nature, du droit naturel, de la religion naturelle, il va aussi poser la question de l'homme athée, donc celui qui n'adhère pas à la religion naturelle, qui n'adhère pas à ce socle de croyances fondamentales. Est-ce qu'il peut être un homme qui connaît la différence entre le bien et le mal? Alors, je vous ai mis un extrait de ce qu'il écrit à ce sujet. C'est pourquoi ceux qui s'imaginent qu'un athée pourrait vivre comme il entend et s'adonner à tous les forfaits et vices dès lors qu'il est à l'abri de toute sanction civile, ceux-là se trompent. Car cela n'est vrai que si un athée est dépourvu de raison et ne se rend plus compte de la teneur de ses libres actions. C'est pourquoi ce n'est pas l'athéisme qui le conduit à mener une vie mauvaise, mais c'est son ignorance et son erreur concernant le bien et le mal, également source d'une vie déréglée et d'une conduite fautive chez d'autres qui ne sont pas athées. Donc quelque part, la connaissance du bien et du mal est même présente chez l'athée, en fait, parce qu'elle est... Sauf que l'athée ne veut pas connaître la raison de cette distinction. Mais en fait, elle est tellement inhérente à la nature humaine que c'est quelque chose qui précède la religion, la foi dans les fondements de la religion naturelle. Alors, quiconque règle... Oui, quiconque règle sa conduite d'après la raison, quiconque agit raisonnablement, vit selon la loi de la nature, et dans la mesure où quelqu'un est raisonnable, il ne peut agir contre la loi de la nature. Et même, puisque nous discernons par la raison ce que veut obtenir la loi de la nature, un homme raisonnable n'a pas besoin d'autre loi, mais il est, au moyen de sa raison, une loi pour lui-même. Donc vraiment la raison qui prime et qui est liée à cette nature humaine fondamentale, en fait. Puisque les bonnes actions, en soi, sont nécessairement bonnes, et les mauvaises actions, en soi, sont nécessairement mauvaises, sont les unes et les autres inaltérables. La loi de la nature veut que nous fassions celle-là, et que nous ne fassions pas celle-ci, et c'est pourquoi cette loi est inaltérable. Vous avez là une idée assez qui peut paraître un peu bizarre, de cette idée de raison, de religion naturelle inhérente à la nature humaine. Alors, comme je vous ai dit, Wolff a toujours pris la défense de la religion chrétienne, notamment contre les déistes, qu'il a beaucoup combattu, mais en réalité, on peut dire que Wolff est le principal théoricien du déisme, mais d'un déisme à l'allemande, donc d'un déisme qui est beaucoup moins combatif que le déisme des Anglais, par exemple, beaucoup moins critique par rapport à la théologie. Et en fait, je voulais revenir sur la question du déisme, et notamment du déisme à l'allemande, qu'on a aussi appelé le wolfisme, parce qu'il y a eu beaucoup de penseurs qui se sont inscrits dans cette lignée de Wolff, en fait. Mais en fait, bon, je pense que je vais passer à autre chose, parce que c'est une question assez compliquée. Et donc, peut-être juste retenir que les Allemands sont effectivement, les penseurs allemands sont beaucoup moins critiques à l'égard des contenus de la foi que les déistes anglais, par exemple. Ils vont plus remettre en question certains dogmes, mais qui sont vraiment remis en question par tout le monde, comme par exemple le dogme de la chute originelle. Bon, c'était déjà des dogmes qui étaient remis en question par la réforme protestante. Ils vont remettre remettre en question la légitimité de certaines traditions religieuses qui étaient aussi déjà remises en cause par la réforme, notamment toute la question des miracles, la question de etc. Mais par exemple, une question qui va être beaucoup débattue par les déistes anglais, qui est la question de l'immortalité de l'âme, ne sera presque pas évoquée dans les débats dans les lumières allemandes, en fait, parce que c'est une question qui est trop délicate quelque part, parce qu'elle touche trop à l'emprise de la théologie. Alors, une des raisons de cette grande prudence de Wolff et aussi de ses disciples, tous ces wolfistes, est que la théologie va reprendre de ses forces à partir du milieu du XVIIIe siècle, pardon, par tout un mouvement qui s'appelle le mouvement des nouveaux théologiens, qui vont avoir une influence à nouveau beaucoup plus importante dans les universités et qui vont surtout se concentrer sur la critique philologique des textes sacrés, donc la critique textuelle, et ça va leur permettre d'escamoter finalement toutes les questions de fond, donc plus les questions de fond sur les grands dogmes comme celui de l'immortalité de l'âme. Alors il y a aussi une très grande méfiance dans les Lumières allemandes à l'égard, donc, d'un côté, du matérialisme français, mais aussi à l'égard de certains écrits de Spinoza et de ce qu'on appelle le spinozisme, qui est assimilé, en fait, à l'athéisme, ou en tout cas au panthéisme. Et donc, on va toujours vouloir se prémunir contre les reproches de spinozisme, en fait. Il semblerait aussi que dans les Allemagnes, le lien soit particulièrement important une idée soit particulièrement entrée dans les mentalités. Elle existe aussi ailleurs, mais là, elle est particulièrement importante. C'est qu'il y a un lien étroit entre religion et moralité. Bon, c'est peut-être un peu contradictoire par rapport à ce qu'on vient de voir, mais en fait, c'est vraiment l'idée que il faut qu'il y ait une religion, soit chrétienne ou alors naturelle, pour qu'il y ait une moralité, en fait, pour que l'homme se comporte de manière morale. Cette idée est particulièrement ancrée dans les mentalités en empire, et donc c'est quelque chose qui en fait va empêcher beaucoup de penseurs d'aller plus loin dans la critique de la religion. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est plutôt un facteur social, hein, c'est que beaucoup de ces philosophes des Lumières allemandes sont des fonctionnaires, en fait, des états territoriaux, donc ils sont employés par des princes pour comme professeur d'université ou alors comme bibliothécaire. Et donc, ils entretiennent une relation assez particulière, qui est une relation en partie intéressée, en fait, en partie dépendante aussi par rapport au pouvoir politique. Et comme le pouvoir politique est légitimé par la religion, évidemment, c'est difficile de critiquer son employeur et ceux qui finalement fonde le pouvoir de son employeur. C'est pour cette raison-là qu'évidemment, toutes ces raisons-là, qu'il y a une plus grande prudence par rapport à la critique de la religion dans les Lumières allemandes que, par exemple, dans les Lumières françaises. Alors, un autre auteur important, qui lui va quand même aller beaucoup plus loin, c'est Reimarus, qui est un disciple de Wolff, mais c'est un disciple assez remuant parce que, comme je l'ai dit, il va aller beaucoup plus loin. Lui, il va prendre ouvertement la défense des déistes anglais et de leurs idées, encore peu discutées en Allemagne. Et c'est une attitude qui va susciter beaucoup d'opposition, notamment de la part de ces nouveaux théologiens dont je vous ai parlé, qui cherchent à monopoliser le débat en matière religieuse. Alors, Reimarus n'a presque rien publié de son vivant, mais ses écrits ont été publiés à titre posthume. Et certains de ses écrits ont donné lieu à une querelle, qui s'appelle la querelle des fragments, qui est la plus grande, la plus importante dispute théologique dans les Allemagnes au XVIIIe siècle. Et c'est dans cette querelle des fragments que va entrer en scène un autre penseur dont j'ai déjà parlé, qui est Gotthold Ephraim Lessing, qui est un écrivain, vraiment un auteur capital des Lumières allemandes, de langue allemande. Alors, pour revenir à Reimarus, donc il se définit lui aussi comme un philosophe populaire, comme Mendelssohn, donc soucieux d'instruire le peuple. Et c'est aussi un chantre de la religion naturelle, mais c'est d'une religion naturelle qui est beaucoup plus déchristianisée encore que celle de Wolff, dont je vous ai parlé. Donc il va défendre cette religion naturelle d'un côté contre le panthéisme de Spinoza, de l'autre côté contre le matérialisme des Français, comme la maîtrise par exemple. Et en fait, il c'est quelqu'un qui a une pensée très rationaliste, en fait, qui est une pensée théologique, mais rationaliste. Contrairement à Wolff et à ses disciples, les Wolffiens, il va nier radicalement toute révélation surnaturelle. Donc pour lui, il ne peut pas y avoir de révélation surnaturelle. Toutes les vérités de la religion naturelle sont révélées à l'homme par sa propre raison. En fait, il ne peut pas venir d'une révélation surnaturelle extérieure à l'homme. Et donc, il a par exemple déjà exposé ses idées dans un recueil du milieu du siècle, donc avant sa mort, en 1754. Et donc là, il dit par exemple qu'il est absurde de penser que la révélation ait été réservée à une petite partie de l'humanité. Il est absurde de penser que Dieu aurait besoin de corriger son œuvre par des miracles. Pour lui, le seul miracle, c'est l'ordre de la nature, qui est en fait un ordre divin que l'homme est appelé à connaître. Reimarus nous dit qu'il ne faut accorder aucun crédit au témoignage de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui sont des assemblages de récits, en fait, mais qui ne représentent en rien une vérité. Et alors, il rejette tous les dogmes, en fait, notamment le dogme central, quand même, du christianisme, qui est celui de la Trinité, en disant que ces dogmes ont été ajoutés par après à la religion naturelle, par l'Église, en fait. Et donc, ils peuvent être critiqués par la raison, parce qu'ils ne font pas partie de la religion naturelle. Et donc, il dit que toutes ces révélations dans les écrits sacrés doivent céder le pas et doivent en fait être remplacées par la religion naturelle. Et en fait, pour lui, la religion naturelle, il a décrit comme le constat de l'harmonie originelle du monde, en fait. Dieu a créé un monde en harmonie et c'est ça, en fait, que l'homme est appelé à connaître par sa raison et c'est ça la religion naturelle. Alors, à sa mort en 1768, Reimarus a légué un volumineux manuscrit qu'il n'a pas osé publier. Et ce sont les fameux fragments, donc ils vont être publiés, mais en trois mouvements. Le premier de ces fragments va être publié en 1774 sous le titre « Tolérance pour les déistes » par un auteur anonyme. L'ouvrage ne crée pas trop de remous. Et donc, en fait, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces fragments sont publiés justement par Lessing, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Qui est bibliothécaire à Wolfenbüttel, qui est en fait la bibliothèque des ducs de Brunswick, c'est un endroit où on collectionne en fait des ouvrages et des manuscrits, et c'est lui qui est en fait dépositaire des manuscrits, non publiés de Reimarus, et Lessing décide de publier ces manuscrits-là parce qu'il en fait il est sympathisant de ces idées, et donc en fait c'est Lessing qui prend l'initiative de publier les textes de Reimarus après la mort de celui-ci. Et donc le deuxième fragment est publié en 1777, et ce fragment s'appelle « Autre fragment tiré des papiers de l'auteur anonyme sur la révélation ». Et c'est cette deuxième publication, ce deuxième fragment, qui va susciter un tollé d'indignation, qui va déclencher la querelle des fragments, une opposition vraiment féroce de la part des théologiens luthériens contre Reimarus, mais bon, qui est mort depuis quelques années, mais surtout contre Lessing, en fait, qui a publié ces fragments. Alors, ce fragment, donc, sur la révélation, souligne les limites géographiques de la religion chrétienne, de la religion judéo-chrétienne, et conclut qu'une révélation faite à un seul peuple ne peut être considérée comme la révélation de Dieu pour toute l'humanité. Donc, ça, c'est une idée qu'on a déjà vue avant. Et ces limites géographiques sont aussi des limites historiques. Donc, tant les prophètes que Jésus appartiennent à un univers mental différent du nôtre, différent de celui du XVIIIe siècle, donc leur message ne peut pas être appliqué à toutes.
Donc, en fait, ça, c'est un extrait de ce deuxième fragment. Donc, on peut donc bien admettre ce que l'on veut, la croyance en une révélation se fondant sur une étude suffisante et une tradition, ou bien encore une foi qui se contente de ce que disent les anciens et les professeurs, le catéchisme et la Bible. Il est clair que dans l'un et l'autre cas, qu'une révélation que tous les hommes et chaque homme en particulier pourrait et devrait accepter sans réserve est chose tout à fait impossible. Or, comme Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, ne peut, s'il veut la félicité de tous les hommes, faire de ce qu'il est impossible à la plupart d'entre eux de recevoir, d'accepter et de mettre en pratique, le seul moyen et la condition nécessaire de la félicité, il faut à coup sûr que la révélation ne soit pas nécessaire et que l'homme n'ait pas été conçu pour recevoir une révélation. Bon, c'est un peu compliqué comme... ça c'est plus facile. Il ne reste qu'un unique moyen pour rendre une chose universelle, le langage et le livre de la nature. Donc il doit remplacer les livres de la révélation. Les créatures de Dieu, les traces des perfections divines qui s'y reflétant comme dans un miroir, s'offrent clairement à tous les hommes, qu'ils soient érudits ou incultes, barbares ou grecs, juifs ou chrétiens. Et ce, en tout lieu et à toutes les époques. A fortiori, ce qui doit rendre l'âme à l'échelle de l'éternité parfaite et heureuse doit être universel. Si ce n'est pas le cas, si un petit nombre seulement y accède, c'est que cela non plus n'est pas nécessaire à l'homme et n'a pu être conçu par le Dieu sage et bon comme un moyen nécessaire, mais c'est une invention des hommes. Donc c'est ce qu'en fait je dis, tous les dogmes qui ont été rajoutés par après ne font pas partie de ce que Dieu a donné à l'homme, en fait, qui est la religion naturelle et qui peut être connue par la seule force de la raison humaine. Alors il y a un troisième fragment en 1778 qui est intitulé « Les buts de Jésus et de ses disciples » où Jésus en fait est présenté comme non point comme le fils de Dieu mais comme un homme faisant partie d'un petit groupe de mystiques juifs pour lequel le monde touchait à sa fin et donc vraiment comme un personnage historique. Et là aussi il va y avoir des contestations et des contestations qui émanent notamment de la part des théologiens luthériens. Notamment le pasteur principal de Hambourg qui s'appelle Goetz et qui va déclencher vraiment une contre-offensive importante contre Reimarus, qui est mort, et surtout contre Lessing, ce qui va conduire à la confiscation, de ces fragments de Wolfenbüttel. Alors Lessing va être interdit de publication dans le domaine théologique et philosophique, et donc en fait il va retourner à écrire des écrits pour la scène, donc ce qu'il avait fait avant comme dramaturge à Hambourg. Et là, il va écrire une pièce très importante. Il va dire, finalement, c'est le théâtre qui sera ma chair de vérité. Et donc, il va écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Nathan le Sage, en 1779, qui est vraiment l'œuvre pour laquelle il est toujours connu jusqu'à aujourd'hui. Mais Lessing va aussi répliquer à ses détracteurs des textes assez courts, qui sont assez incisifs aussi, et notamment par un texte qui s'appelle Duplique, qui est un texte très bref. Et l'argument de fond de toutes ces répliques, et notamment de la Duplique, c'est que Il ne veut pas faire l'apologie des idées de Reimarus, mais il fait l'apologie du droit de publier sa quête de la vérité. Donc, en fait, une apologie de la liberté d'expression aussi. Et pour Lessing, en fait, les, vraiment l'idée qui est au centre de sa réponse, c'est que les idées du vrai et du faux sont assez superficielles. Elles nous ont été inculquées depuis la naissance, mais en fait, elles sont très relatives. Et ce qui compte, ce n'est pas la vérité, avoir la vérité, mais d'être à la recherche de la vérité. Donc, il met vraiment en place une éthique de la recherche de la vérité. Et donc, cette duplique de 1778 va faire passer ce message, un triple message. D'abord, la vérité n'est pas quelque chose de défini une fois pour toutes. Il y a une conception éthique de la vérité. Il faut partir à la quête de la vérité. Et le savoir, la volonté de savoir est toujours plus importante que la possession du savoir. La notion de perfection elle-même est historicisée, donc en fait elle n'est pas donnée une fois pour toutes, elle est en mouvement constant, elle est en croissance constante. Et le meilleur des mondes possibles, selon Lessing, est celui dans lequel la perfection ne cesse de croître, de gagner, la perfection ne cesse de gagner sur l'imperfection, la vérité ne cesse de gagner sur la non-vérité et le bien ne cesse de gagner sur le mal. Donc c'est aussi une vision assez optimiste, en fait, assez progressiste de la nature humaine, de l'être humain, de l'humanité de manière générale. Je vais vous mettre, peut-être pour terminer, cette citation qui est vraiment très importante parce qu'elle résume bien la pensée de Lessing. Ce n'est pas la vérité que tel ou tel homme possède ou croit posséder, mais l'effort sincère qu'il a déployé pour aller au bout de la vérité qui fait toute la valeur de l'homme. Car ce n'est pas par la possession de la vérité, mais par sa recherche que se développent les forces dans lesquelles réside, et en elle seule, la perfection, sa perfection toujours croissante. La possession assagit, elle rend paresseux et orgueilleux. Si Dieu tenait caché dans sa main droite toute la vérité, et s'il tenait caché dans sa main gauche cette seule mais vivace aspiration à la vérité, alors, et même avec ce code ici que je pourrais errer et me tromper pour l'éternité, alors s'il s'adressait à moi et me disait « Choisis », alors je me prosternerais devant sa main gauche et lui dirais « Donne-moi ceci au Père, car la vérité pure n'appartient qu'à toi. » Voilà, donc ça c'est la réponse en fait de Lessing aux théologiens qui critiquent sa publication des fragments de Reimarus. Alors l'autre réponse, évidemment, c'est Nathan le Sage, dont je vous ai déjà parlé, qui date de la même année, donc de 1779, qui est un drame philosophique, en fait, hein, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est en fait souvent considéré comme une pièce sur la tolérance religieuse, parce qu'elle met en scène les représentants des trois monothéismes à Jérusalem, dans un Moyen-Âge assez fictif. Et au centre de cette pièce, il y a la parabole des trois anneaux. Je vais juste vous montrer... Ça, c'est une statue de Lessing. Et ça, c'est une statue contemporaine, en fait, mais qui représente Nathan le Sage, qui se trouve devant la maison où habitait Lessing à Wolfenbüttel. Et en fait, cette pièce est importante parce que c'est une pièce sur la tolérance, avec cette parabole des trois anneaux, avec l'idée qu'il y a une vérité commune à toutes les religions, qui est en fait, quelque part, le vrai anneau perdu, hein. Chaque possesseur de l'anneau pense qu'il a la vérité, mais en fait le vrai anneau a été perdu et est caché, il faut le retrouver. Et cette vérité commune à toutes les religions est gommée et cachée par les dogmes, par les pratiques, hein, des religions positives. Et donc il faut se libérer de ces dogmes et de toutes ces pratiques pour accéder à cette vérité commune. Donc tolérance religieuse certainement, mais c'est aussi... Ça va plus loin que ça, parce que c'est une réflexion sur la vérité. Qu'est-ce que c'est que la recherche de la vérité, la possession de la vérité, comme ce qu'on a vu dans la citation. C'est aussi un appel à la fraternité humaine, parce qu'à la fin de la pièce, tous les personnages, quelle que soit leur opinion et leur conception religieuse, quelque part, découvrent qu'ils sont liés par des liens même de sang, en fait, mais c'est évidemment assez symbolique. Donc c'est une pièce aussi sur la fraternité humaine. Et ce sont des éléments qu'on va retrouver dans d'autres écrits de Lessing. Donc, je voulais encore vous parler d'autres écrits de Lessing, notamment sur l'histoire, en fait, où il va inscrire cette idée de l'évolution permanente, du perfectionnement permanent de l'humain dans l'histoire, en parlant non pas de l'individu, comme dans ce que je viens de vous lire, enfin, comme, qui était centré sur l'être individuel, mais en parlant de l'humanité tout entière. Parce que pour lui, en fait, l'humanité tout entière connaît un perfectionnement. En fait. Et donc, il y a vraiment l'humanité tout entière va vers la victoire, finalement, de la raison, hein, qui va connaître cette religion naturelle, et en fait, cette religion naturelle qui va remplacer les religions particulières, les religions historiques, en fait, inscrites dans la réalité historique. En fait, juste peut-être la citation, ça c'est la maison, juste une citation de ce texte, plus axé sur l'histoire, donc, qui s'appelle l'évolution de l'humanité. L'éducation du genre humain, pardon. Non, il viendra assurément le temps de l'accomplissement où l'être humain, à mesure que son entendement se sentira convaincu d'un avenir toujours meilleur, n'aura cependant pas besoin d'emprunter à cet avenir les motivations de ses actes, où il fera le bien parce que c'est le bien et non parce qu'ils sont liés des récompenses arbitraires. Donc ça, c'est vraiment une critique des religions, en fait, hein, qui devait autrefois simplement fixer et affermir son regard inconstant afin qu'il reconnaisse les récompenses intérieures meilleures encore du bien. Donc il fera le bien pour le bien lui-même parce que c'est la religion naturelle et pas parce que les religions positives lui promettent, en fait, par exemple, le paradis ou d'autres récompenses. Poursuite en imperceptible progression, éternelle providence, mais ne me laisse pas désespérer de toi à cause de son caractère imperceptible. Ne me laisse pas désespérer de toi, même si tes pas devaient me paraître repartir en arrière. Donc il peut y avoir on peut avoir l'impression qu'on revient en arrière, mais en fait, il dit non, la marche vers ce progrès-là, vers cette émancipation de l'humanité, en fait, cette éducation du genre humain est en fait inéluctable, elle est continue. Donc. Alors, voilà, donc ça, on retrouve quelque part là aussi l'idée des idées qu'on a déjà vues auparavant, en fait, notamment tout au début avec la définition de Kant, que Kant donne de qu'est-ce que c'est que les lumières. Alors, quelques mots de conclusion. C'est encore les signes. Voilà. Finalement, qu'est-ce qui caractérise ces rapports entre les lumières de langue allemande et la religion. D'abord, nous avons vu que ce sont des lumières très protestantes, ou des lumières juives aussi, mais pas fort des lumières catholiques. Dans ces lumières, dans le rapport à la religion, il y a une prédominance des débats théologiques, donc contrairement à ce qui se passe en France, en fait, où les débats théologiques, finalement, sont de contenus théologiques, sont beaucoup moins importants. Ici, c'est vraiment au cœur des Lumières allemandes, ce rapport à la théologie. Il y a une grande modération dans la remise en question des dogmes, mais parfois, il y a aussi une évolution vers un adogmatisme certain, notamment dans le chef de Lessing et de Reimarus aussi. Il y a l'émancipation de la philosophie et de l'histoire par rapport à la théologie, qui est au centre du mouvement des Lumières, et qui passe notamment, enfin, en ce qui concerne l'histoire, par l'histoire comparée des religions, qui va toujours conduire à un certain relativisme. Hein, comparer des religions, c'est en fait relativiser leur vérité, par la comparaison avec d'autres vérités. Il y a la promotion de la tolérance, qui est à la fois une tolérance religieuse, mais aussi une tolérance civile, donc avec des applications politiques concrètes, notamment l'émancipation des Juifs, la promotion de l'émancipation des Juifs. Il y a une méfiance assez profonde à l'égard du déisme anglais, à l'égard du spinozisme et à l'égard du matérialisme. Il y a cette notion qui nous paraît assez compliquée de religion naturelle et qui est étroitement liée à la notion de droit naturel, donc vraiment quelque chose d'inscrit au fond de l'humain, en fait, et qui est aussi liée à l'idée de la prééminence de la raison, parce que et le droit naturel et la religion naturelle peuvent être appréhendés par la raison humaine, ils ne sont pas du tout tributaires d'une révélation, mais sont vraiment peuvent être appréhendés par la raison. Alors, on a vu avec Lessing une vision idéaliste et optimiste du monde et de l'humanité. une éthique de la rationalité et de la responsabilité, donc, qui découle en fait de tous ces éléments, la responsabilité aussi qu'on a retrouvée chez Kant, hein, donc c'est sortir de sa minorité, mais sortir par un effort, par son effort propre en fait. Et enfin, l'idée de la quête du perfectionnement humain, qui est très importante au centre de ces lumières-là, alors que par exemple pour les lumières françaises et aussi pour les lumières anglaises, l'idée qui prédomine, c'est celle de la recherche du bonheur terrestre. Pour les lumières allemandes, c'est plus la question du perfectionnement humain. Enfin, on peut dire que les deux sont liés, mais c'est un peu différent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est mieux ça. Il faut fermer celui-là.
Voilà, je remercie beaucoup Monique Weiss pour nous avoir donné un panorama de l'Aufklärung qui est en effet ici bien moins connu que les Lumières françaises. Je vous cède immédiatement la parole pour des questions ou des remarques.
Pardon, vous ne nous avez pas beaucoup parlé de Mendelssohn. J'aurais voulu en savoir un peu plus.
Oui, enfin, j'en ai un peu parlé quand même de ses idées, en fait. Mais j'ai surtout dit que son apport, c'est donc par rapport à l'histoire comparée des religions, qui dans laquelle il joue un rôle très important. C'est surtout quelqu'un qui a aussi beaucoup vulgarisé les idées des Lumières, dans beaucoup d'écrits dans les revues, par exemple. Enfin, il a beaucoup vulgarisé ses idées. En fait, son importance est surtout capitale pour la critique des textes sacrés du judaïsme, notamment du Talmud. Donc c'est un travail assez assidu qu'il a fait, très approfondi. C'est quelqu'un qui n'a pas remis en question la religion, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est resté attaché au judaïsme. Bon, évidemment, c'est une autre situation, parce que c'est pas une situation liée à une institution ecclésiastique aussi forte que par exemple l'Église catholique ou même les églises luthériennes ou calvinistes. Donc il avait peut-être pas cette contradiction aussi importante dans cette pensée, mais c'est quelqu'un qui est resté profondément religieux, mais qui a apporté beaucoup dans la critique des textes sacrés, et donc il a beaucoup influencé d'autres personnes. Et alors il a beaucoup apporté au débat sur la tolérance, en fait, mais qui était presque plus d'un point de vue politique et social que d'un point de vue religieux, en fait. Oui.
Donc, dans la multiconfessionnalité du Saint-Empire, vous avez parlé des luthériens et des réformés. Or, quand Luther arrive, on dit que c'est la réforme protestante. Donc, y a-t-il une distinction théologique entre les luthériens d'une part et les réformés de l'autre ?
Oui, c'est une question de terminologie. Donc, en fait, les réformés sont les calvinistes. Mais en fait, c'est vraiment une manière, c'est la manière de les appeler. En fait, c'est une distinction qui remonte au XVIe siècle. Donc, il y a d'abord eu la réforme luthérienne, et puis après la réforme calviniste, qui ne s'est pas déroulée en Empire, mais à Genève, et qui par après a eu du succès à l'intérieur du Saint-Empire. Et en fait, oui, ils se sont appelés les calvinistes, mais ils sont aussi appelés les réformiertes, les réformés.
Donc, il n'y a pas de... Si, il y a quand même une certaine distinction théologique, mais je pensais, ce que vous avez dit, que vous faisiez vraiment une distinction.
Si, il y a une distinction importante, oui.
Dans le sens même. Hein.
Mais qui remonte au XVIe siècle, mais qui existe toujours au XVIIIe siècle, sont des églises séparées, qui parfois sont à couteau tiré, presque autant qu'avec les catholiques, en fait. Et c'est la distinction entre Luther et Calvin. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails des distinctions théologiques, parce que c'est justement...
oui. Voilà, pour raccrocher aux retombées politiques plutôt de cette philosophie des Lumières, je voulais poser la question si, selon vous, Marx était plutôt un anti-Lumière qu'un héritier de cette...
Il a aussi beaucoup critiqué les Lumières, Marx.
Lorsqu'il dit notamment que la religion est l'opium du peuple.
Oui, entre autres, mais il a aussi critiqué, par exemple, cet idéalisme qui peut paraître assez naïf quand même, enfin, par rapport à l'évolution de l'humanité, voilà. Et aussi parce que, évidemment, enfin, je ne suis pas un spécialiste de Marx, mais il a critiqué leur manque de prise en considération des éléments économiques dans la vision des choses. Enfin, et bon, en même temps, il était certainement quelque part un fils aussi des Lumières, mais par des chemins détournés, certainement. Enfin, parce que bon, il est un fils spirituel de Hegel, il a repris beaucoup de théories de Hegel, et donc Hegel lui-même... et quelque part à développer certaines des idées que je viens d'évoquer, notamment l'idée de cet esprit humain qui se déploie dans l'histoire de l'humanité, vous voyez, enfin, l'idée de Hegel, et c'est une idée que Marx, enfin, dont il s'est inspiré, mais il l'a complètement transformé aussi. Enfin, mais bon, ça c'est très résumé, peut-être.
À propos...
Pardon ? Je pense que les choses ne sont pas si simples que ça. On ne peut pas dire que c'est un héritier ou c'est un critique. Il est les deux, en fait. Je crois. Enfin, peut-être qu'Anne...
Non, je ne pourrais pas du tout répondre à ça, mais j'avais moi-même une question un peu dans ce sens-là. Aujourd'hui, on critique assez fréquemment les Lumières, et je voulais savoir si le caractère plus modéré de l'Aufklärung faisait qu'elles étaient moins critiquées que les Lumières ou non.
Oui, ça... mais comme je l'ai dit au début, elles ont été beaucoup critiquées après la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans la manière assez idéalisée dont elles avaient été présentées par des gens comme Cassirer, enfin, qui avaient vraiment une admiration pour les Lumières. Et donc ça a été beaucoup critiqué, notamment cette naïveté, dire que bon, voilà, le progrès est ininterrompu, l'homme va toujours de plus en plus faire la raison, et... Je crois que dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est une idée qui est difficilement défendable, enfin, malheureusement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on critique par rapport aux Lumières ? Est-ce qu'on critique leur attitude à l'égard de la religion ? Peut-être.
Dans certains cas, mais il me semble qu'on critique beaucoup la raison au nom plutôt d'une affectivité, d'une émotion.
Mais en même temps, la raison est aussi au centre ici de ces Lumières-là. Donc c'est... Il me semble qu'aujourd'hui, quand on critique les Lumières, enfin, moi, ce que j'entends, c'est beaucoup l'histoire des, enfin, plutôt les droits, les libertés fondamentales, les droits de l'homme, enfin, cette idée de droit peut-être naturel, universel, le côté que les Lumières se voulaient universel et universaliste, alors qu'en fait, enfin, c'est ce que j'entends de la part des étudiants, par exemple, qui me disent, oui, mais ce sont des idées nées en Europe au XVIIIe siècle, ça ne concerne pas l'Afrique ou ça ne concerne pas la Chine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu... Mais je pense que c'est la même. Ces critiques-là sont aussi valables par rapport à ces Lumières-là que par rapport aux Lumières françaises. Hein. Enfin,
Madame, il faudrait revenir un instant sur un mot que vous avez prononcé une fois.
Oui.
C'est athée.
Oui.
Or, à l'époque des Lumières, la tolérance religieuse existait. Mais il n'y avait pas de tolérance vis-à-vis de l'athéisme.
Non.
Je crois que nous sommes d'accord là-dessus.
Oui, tout à fait.
La deuxième chose que vous avez répétée souvent, c'est que ces messieurs, que je vais essayer d'approfondir quand même, connaître mieux que je les connais, se défendent d'être spinozistes. Mm-hmm. Or, je me demande s'ils se défendent d'être spinozistes pour la seule raison qu'alors ils pourraient être considérés comme athées.
Oui.
Parce que le nombre de réflexions, le nombre de pensées dues à Spinoza que je retrouve dans les termes, les pensées, les références, la philosophie de ces messieurs sont très nombreux. Alors j'ai l'impression qu'ils ne voulaient pas afficher les origines de leurs pensées de peur d'être taxés d'athéisme et d'avoir des conséquences, parce que les conséquences étaient très graves, même dans les Pays-Bas du Nord où vivait Spinoza. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que je me trompe, est-ce que vous avez la même idée que moi ?
Oui, donc effectivement, je pense que le rapport à Spinoza est très ambivalent. Donc ils ont lu Spinoza, ils ont apprécié certains de ses écrits, mais certains autres écrits sont vraiment considérés comme très dangereux, notamment l'éthique de Spinoza. Et en fait, on se méfie de Spinoza parce que Spinoza est associé à l'idée d'athéisme et de panthéisme. Et donc, oui, enfin, à l'époque, donc on traite quelqu'un de spinoziste, c'est pas un compliment. Et notamment, Lessing, il sera traité de spinoziste, en fait, à titre posthume. Et Mendelssohn va écrire pour le défendre et pour dire que et non, il n'était pas vraiment spinoziste. Mais c'est des débats qu'on a du mal à saisir, parce que pour nous, il n'y a pas beaucoup de nuances entre ces conceptions, mais pour eux, c'était fondamental parce que ça touchait en fait à la remise en question de la vérité religieuse, en fait. Donc c'est toujours la question de jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour ne pas, sans aller trop loin. Et ça, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est le paradoxe inhérent finalement à cette pensée. Alors l'athéisme, vous avez tout à fait raison, donc je dis qu'il y a une méfiance fondamentale par rapport au matérialisme athée, notamment tel qu'il est développé par le parcours de Holbach ou la maîtrise. Et donc il y a toujours, on se défend toujours d'être athée. Et il y a eu très très peu d'athées qui se sont vraiment revendiqués comme athées. Il y en a eu quelques-uns à la fin du XVIIIe siècle, parmi tous ces messieurs, il n'y en a pas un seul qui s'est revendiqué comme athée. J'ai juste parlé de cette réflexion sur les athées, parce que pour montrer que cette religion naturelle, elle est tellement naturelle qu'elle s'impose même aux athées. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est aussi une contradiction, mais c'est l'idée que c'est inhérent à la raison et à la nature humaine, et donc même l'athée qui se défend de ça, il est soumis à ça. En fait, c'est ça qu'il a voulu montrer, mais il a une horreur sainte des athées, en fait, hein, Wolf. Donc, et il n'est pas le seul.